Bon dimanche à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous en ce dernier jour, cette dernière journée de l'année, ce dernier dimanche de l'année. Et puis aujourd'hui, j'ai pris un petit peu l'idée que probablement ce soir là au Québec, depuis 1968, il y a une grande partie de la population qui vont être assis devant leur téléviseur pour regarder ce qu'on appelle le bye-bye. Hein? Tout le monde est au courant, tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une raison parce qu'il est enregistré et vous pouvez le regarder non-stop pour une semaine. Mais ça fait partie un peu des habitudes québécoises. Hein? Ils prennent le temps, de façon humoristique, de souligner les grands événements de l'année. Hein? Puis là, nous, on rit ou on rit pas chez nous. Et puis, après ça, ce qui devient intéressant, c'est qu'après, il y a pendant comme la semaine qui suit cet événement-là, au moins deux journées après, là, tout le monde fait juste des commentaires. Ça, c'était bon, ça, c'était pas drôle, ça, c'était déplacé, ça, c'était plat. Puis là, ça fait encore plus couler d'encre. Mais je me suis demandé, puis je pense que c'est un bel exercice, vous savez, Dieu nous appelle à faire souvent dans notre vie des rétrospectives. Regardez comment est-ce que mon année a été. Comment est-ce que les choses ont été dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Où est-ce que je me situe? Et j'aimerais vous amener un peu avec moi sur un chemin, sur un petit parcours qui n'est pas tout le temps facile. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Vous savez, la semaine passée, j'étais un peu technique, j'étais allé un peu dans des détails, la Nouvelle Alliance, puis qui est le Messie. Cette semaine, on va regarder un côté pratique, mais je pense que c'est encore plus difficile. On va essayer de faire une rétrospective biblique, et puis là, je vous demande pas de regarder les bons coups cette année. Moi, je suis pas un gars de même, OK? Parce que si je regarde mon année 2023, l'année passée, à la même date, j'étais plombier. Je travaillais, j'étais entre deux jobs, je cherchais qu'est-ce que le Seigneur voulait. J'essayais de rentrer dans l'industriel parce que j'étais tanné de faire des maisons. J'ai fait du Nord. Belle expérience, pas belle expérience, on ne sait pas. J'ai essayé plein de choses, j'ai trouvé un nouvel emploi. Et puis, à travers toute cette année-là, le Seigneur est venu me chercher. Il a mis à cœur des gens, on a parlé. Et puis, au courant de l'automne et de l'été, les démarches ont été faites pour que je puisse venir œuvrer ici parmi vous. Et puis, le Seigneur a changé les choses. On apprend à se connaître, on développe un peu les relations, développe les différents ministères, on regarde. Et puis, si je fais ma rétrospective 2023, je pourrais faire « wow ». Quand même, hein, le Seigneur a fait des grandes choses. Mais voyez-vous, j'ai pris le temps de regarder dans la parole. Et puis, ce matin, je vais probablement vous bombarder de références, mais prenez-les en note, puis allez les voir plus tard. Okay? Parce que je veux que vous compreniez que ça ne sort pas de ma tête. Ça sort vraiment d'une lecture de la parole. Et on le dit souvent, le Seigneur s'intéresse aux petites choses. Le Seigneur s'intéresse à ce qui se passe dans votre cœur quand personne regarde. Hein, le Seigneur ne s'intéresse pas nécessairement à « big deal », on est sorti, on s'est crinqué une gang, on est allé évangéliser en ville. Puis là, ben, on a fait quelque chose pour le Seigneur. Ça se fait. Ça, c'est bien. Et puis, c'est encourageant dans notre foi. Mais ces victoires-là, normalement, proviennent des petites choses. Et puis, là, j'ai pas la petite manette pour avancer, mais on va s'examiner ensemble et je vais vous donner plein de points. J'ai trois points que j'aimerais qu'on regarde ensemble. On va examiner notre piété personnel. On va examiner aussi notre relation avec l'amour. L'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Et on va examiner aussi notre marche chrétienne. OK? Et ces trois points qui sont personnels. OK? Parce que la piété, si je me compare à mon voisin, ben, je peux peut-être être meilleur que lui. Peut-être. Ça dépend. Mais je suis persuadé que vous êtes conscient, la parole de Dieu ne m'encourage pas à me comparer aux voisins. Hein? Merci, Tom. La parole de Dieu m'encourage à me comparer à Jésus. Et puis là, quand je commence à me comparer à Jésus, C'est tout le temps lui qui gagne. Donc, en résumé, aujourd'hui, on va faire ça. On va s'examiner, puis les trois points, on va examiner notre piété, on va examiner notre amour et notre relation avec l'amour que Dieu nous demande d'avoir, et on va regarder la marche chrétienne. Ensuite, on va faire une mise à niveau. Et pour ceux qui sont un peu conscients, la mise à niveau, on va se concentrer principalement sur le psaume 51. Parce que si vous êtes capable de passer à travers le point 1, qui est de s'examiner, sans aucun point négatif ou sans vous dire « ouais, j'ai quelque chose à travailler », ben vous êtes une personne exceptionnelle. OK? Et puis moi, je vous donne une idée. On est dans le temps des fêtes et puis je suis plus fatigué que la normale. Et puis, je vis des choses dans ma vie. J'ai des luttes personnelles. Et puis, j'ai pris le temps d'examiner ces points-là. Je ne vous partage pas ça out of the blue, là. J'ai pris le temps de l'appliquer à moi-même. Et puis, c'est quelque chose qui est drainant. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup. Ça demande un combat avec soi-même pour être honnête. Puis, regarder vraiment intentionnellement. Voici ma vie, où elle est en ce moment. Et qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? C'est pour ça que je vous dis, regardez pas nécessairement à vos grandes victoires. Remerciez le Seigneur pour, mais la petite rétrospective que je veux faire, c'est regarder ce qui compte vraiment quand personne regarde. Ce qui vient enraciner ma foi dans quelque chose qui ne bougera pas. Donc, et on va terminer aussi avec le dernier point, on va s'unir pour avancer, ce qui veut dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas fait pour combattre tout seul, on est fait pour combattre ensemble. Donc, je vais vous lire un peu le verset qui a déclenché un peu cette réflexion-là pour moi, qui est dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Et puis, vous allez le voir. Oups, c'est pas grave. OK. Il en manque un, mais c'est pas grave. Donc, 2 Corinthiens 13, 5, je vous invite à lire avec moi, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et ça, c'est un peu la réflexion qui est partie dans ma tête de dire, hey, ce soir-là, le 31 décembre, en passant à la nouvelle année, tout le peuple québécois va se remémorer cette année. Puis là, ils vont rire des politiciens, ils vont rire de ce qui est arrivé, ils vont souligner la mort du chanteur des Cowboys fringants, ils vont souligner. On sait pas mal tout ce qui s'en vient, puis là, c'est tirer à pile ou face. Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qui ne ressort pas? De quoi ils vont parler? Et dans notre vie chrétienne, je pense que c'est bon. Et puis, moi, je suis un fervent défenseur de s'examiner. Hein? Il y a des croyants qui vont utiliser un verset qui ne me vient pas à l'esprit parce que je suis en avant, mais qui dit « Voici, j'oublie toutes choses qui sont derrière et je me projette vers l'avant. » OK? Et puis là, on dit « Regardez, là, vos luttes, ce qui est passé, c'est pas grave. Le Seigneur a payé pour ça. Maintenant, on avance. » Moi, je vous dis que pour être efficace dans votre vie chrétienne, le Seigneur nous appelle à s'examiner nous-mêmes. Et s'examiner sur un point important, c'est s'examiner sur est-ce que je suis dans la foi? Hein? Examiner le point, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je crois au Seigneur ou est-ce que je ne crois pas au Seigneur? Et je vais pousser un point plus loin, mais des fois quand je l'ai dit, ce n'est pas clair, mais est-ce que je crois au Seigneur? Ou est-ce que je crois au Seigneur? Me voyez-vous aller? Est-ce que j'ai une connaissance dans ma tête de ce qu'est l'Évangile et je suis capable de l'expliquer et je suis capable de partager, mais ça ne change pas vraiment mes décisions personnelles. Ça n'a pas impacté ma journée, ça n'impacte pas ce que je lis, ce que je regarde, ce que je fais, ce que je dis, ou ça impacte, mais il y a des affaires que je garde pour moi. Hein? Ça a changé toute cette partie-là de ma vie, mais cette petite part de tarte-là, je la garde. Ou est-ce que j'ai laissé la parole de Dieu, la foi en Jésus, attaquer tout rempart que j'ai créé pour moi, toute protection que j'ai faite, et là, je l'ai laissé transformer chaque partie de ma vie, même quand ça fait mal. Ce qui veut peut-être dire apprendre, pour plusieurs, apprendre à partager mes luttes. Apprendre à dire ce qui me fait mal dans la parole de Dieu. Apprendre à pardonner ceux qui m'ont offensé. Apprendre à vivre avec les personnes qui m'ont offensé. Hein, ça vient tout transformer. C'est des choses qui sont vraiment profondes. Et là, je vous en ai donné plusieurs. Si vous tournez dans Jacques au chapitre 4, il va questionner où est votre affection. Et puis, les versets qui sont là, c'est Jacques qui est en train de challenger les croyants à dire, si vous aimez les choses du monde, vous n'êtes pas de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que les choses du monde sont temporaires, mais les choses de Dieu sont éternelles. Et puis, si je vous pose la question, ça veut dire quoi s'affectionner? C'est quelque chose qui est important, parce que ça ne veut pas juste dire aimer. Tu sais, je veux dire, si tu aimes jouer au hockey, c'est pas un péché, là. Mais ça veut dire quoi s'affectionner? Hein, puis je vais vous donner une réponse rapide. Ça veut dire... Bon, j'avais la réponse, puis là, ça s'en va. Mais non. Ça veut dire faire de l'objet ce qui va être la source de ma joie et ce que je vais rechercher à faire en premier. OK? Avoir une affection pour quelque chose, ça veut dire qu'elle va prendre beaucoup de place et je vais meubler ma vie pour ça. OK? Donc, si je m'affectionne aux choses du monde, je vais prendre des décisions. Elles ne sont pas nécessairement négatives, là. C'est pas nécessairement mauvais d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue biblique, si mon affection, ce qui veut dire la chose autour de laquelle je vais modeler ma vie, ça devrait être le Seigneur Jésus. Et ça devrait être dans ma vie de piété personnelle. Et puis là, on parle de culte personnel. Mais on parle de tout ce que j'ai écrit là. Hein? Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Comment est-ce que je vis ma vie de célibataire ou ma vie de couple? Comment est-ce que je vis mes luttes avec le péché? Et quand on se questionne, la base de tout ça, c'est ma piété personnelle. Hein? C'est, est-ce que je vais lutter avec mon vieil homme? Parce que Colossiens nous enseigne que à la croix, le vieil homme, l'homme naturel, l'homme charnel, a été crucifié avec Christ. Et puis là, on connaît la chanson. Et si je vis, c'est ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et, mais ailleurs, Paul nous dit, je fais la guerre à ma chair. Parce que le Seigneur nous dit même dans Matthieu 26, il nous dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ça devient une lutte. Et pour vous dire, personne lutte passivement. OK? Excepté quand je fais de la lutte avec mon petit gars de 6 ans. OK? C'est la réalité, là. Si je fais... Mon petit garçon, il fait de la lutte, il m'attaque, il a beau tenir ma jambe, il peut pas lever mon poids, il peut pas faire grand-chose. Donc, à moins qu'il triche puis qu'il commence à me donner des coups de poing là où ça fait mal, je bougerai pas. Mais c'est pas la réalité de ma lutte avec le péché. Hein, le chrétien n'a pas le droit, là je dis n'a pas le droit, vous êtes libre, là, mais le chrétien n'est pas censé être passif parce que la Bible nous dit que le péché est plus fort que nous. Donc quand je vais faire ma rétrospective de 2023, je vais prendre le temps de regarder, est-ce que j'ai vraiment bâti ma vie autour du Seigneur Jésus? Est-ce que j'ai fait de lui mon affection première. Et il y a toujours un combat. Puis ça ne veut pas dire que mes passe-temps, je ne suis pas en train de dire que nos passe-temps, c'est péché, puis il faut tout arrêter, puis juste prier 24-7, puis lire notre Bible. Si vous êtes capable, vous êtes bon. OK? C'est pas mauvais, mais c'est pas l'objectif. Hein? On a toute une vie. Le deuxième point qui vient se lier avec le premier, c'est comment est-ce que je m'approche de Dieu? Et puis là, je vous ai mis Hébreux 4:16 puis Hébreux 7:19 qui sont des principes qui nous disent « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et le pardon de nos péchés. » Comment est-ce que je m'approche du Seigneur? Pourquoi est-ce que je le mets là? C'est parce que, vous comprenez, dans mon cheminement chrétien, à un moment donné, il y a eu un tri à faire dans mes amis, puis malheureusement dans mes amis chrétiens. Et puis, j'étais quelqu'un qui, moi j'allais au Seigneur avec tout. C'est quelque chose qu'on m'a appris. Le Seigneur, de toute façon, il les connaît tes péchés, Marco. Ça ne sert à rien que tu les caches, OK? Confesse tes péchés, demande pardon, puis trouve du réconfort dans la parole. Mais je parlais avec certains de mes amis qui étaient chrétiens dans ce temps-là, puis je mets des brackets. Et puis là, je leur disais, ils me disaient, « Marco, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller confesser mes péchés au Seigneur. C'est des péchés, c'est dégueu. Le Seigneur, ça ne l'intéresse pas. » Tu sais, je veux dire, il sait de toute façon, je n'ai pas besoin d'aller le voir, puis c'est... Je ne peux pas aller confesser au Seigneur mes luttes avec la pornographie, mes luttes avec la colère. Ça ne l'intéresse pas. Et puis, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça m'a touché parce que, vous savez, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne peut pas pardonner. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est infini. Donc, si Dieu est infini, est-ce que je peux faire quelque chose de trop grand pour lui? Hein, c'est un petit raisonnement circulaire un peu niaiseux, mais comprenez que une des raisons pour laquelle c'est primordial, puis la Bible pousse là-dessus, que notre Messie, notre Sauveur, c'est Dieu, c'est parce que Dieu est infini, donc il n'y a rien à son épreuve. Et puis parfois, j'aime exprimer la chose suivante. Le péché ou Satan est plus fort que vous pouvez l'imaginer. Votre imagination n'a pas la capacité de comprendre la puissance de l'ennemi. OK? Mais Dieu, lui, est infini. Ce qui veut dire que, oui, c'est plus grand que notre imagination, mais ça a une limite. Hein? On sait que dans le livre de Job, Satan est obligé de se présenter devant Dieu pour y donner son itinéraire de la journée. Hein, Job, ça nous donne un certain réconfort de savoir que rien de ce qui arrive est hors du contrôle du Seigneur. Mais ça vient aussi mettre un poids parce qu'on sait que rien de ce qu'on fait est nécessairement de sa faute. Hein. Je suis responsable de mon péché, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes affections et je suis responsable de comment est-ce que je vais m'approcher de Dieu. Est-ce que je garde des choses pour moi? Est-ce que j'ai laissé des choses cuisiner? Là? En anglais, on dit « let it cook ». Jusqu'à ce que ça devienne mûr, ça devienne prêt. Hein? Ça grossit, ça bubble en dedans. Là. Et puis là, maintenant, on n'est plus capable d'en parler. Et puis là, on est incapable d'aller voir le Seigneur avec ça. On garde ça. Le reste de notre vie est beau. Là. Hein, on est capable d'évangéliser. Ma vie va bien. Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que je me suis approché du trône de Dieu? Et puis, dans le livre d'Hébreux, il fait un parallèle avec le livre d'Esther. Hein? Quand Esther se présente, pas invité devant le roi, puis là, le roi étend son sceptre, et puis là, elle peut s'approcher. Le parallèle est du fait que le Seigneur Jésus a toujours le sceptre tendu, et il nous appelle constamment. Et ils font ce parallèle-là pour que chaque croyant sache qu'à tout moment, on peut aller au Seigneur. Et est-ce que dans ma vie, je m'approche du Seigneur à tout moment? Quand j'ai une lutte, quand j'ai un combat, est-ce que je m'approche du Seigneur ou je garde des choses? Le troisième point, c'est dans la vie de piété, c'est comment est-ce que je vais vivre ma vie de célibat ou de couple? OK? Parce que ça, souvent, quand on parle à quelqu'un ou qu'on explique comment la vie va, on a une vision. Et puis si vous êtes en couple, votre femme a probablement une autre vision. Moi, ma femme, elle n'a pas la même vision que moi sur comment ça va ou qu'est-ce qui se passe, comment notre vie va. OK? Et puis, c'est normal, on est là pour grandir ensemble mutuellement, s'encourager, se challenger. mais aussi comment est-ce que je vis ma vie de célibat. Si vous allez dans 1 Corinthiens au chapitre 7, versets 32 à 35, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, puis il leur dit, « Celui qui est seul s'inquiète des choses du Seigneur, mais celui ou celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de comment plaire à son conjoint, son mari ou sa femme. » Et savez-vous que c'est, à part le Seigneur, votre priorité si vous êtes marié? Donc, comment vous traitez votre conjoint, c'est un point principal et primordial de votre vie de piété. Si vous avez une vie de prière fervente, puis vous lisez votre Bible à tous les jours, mais que vous traitez votre conjoint un peu n'importe comment parce que, bah, ça fait des années qu'on n'a pas vécu, qu'on a un problème, puis là, on ne veut pas le régler, on n'est pas capable. Fait que là, des fois, il fait la chose qui m'énerve, fait que là, bah, bah, commence à parler une autre langue. Ça vient mettre un point, ça vient mettre une cassure. Et puis, c'est quelque chose qui peut être difficile. Pour moi, c'est quelque chose de difficile, parce que je suis quelqu'un qui est très, très dur dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui, les faits sont là, les émotions, je m'en fous. Ça marche pas, hein? Ça veut dire que moi, je dois faire attention à comment je vais traiter ma femme. Je vous donne un heads up, j'apprends encore, OK? Et puis, je vais apprendre toute ma vie. Mais si je suis célibataire, comment est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je suis en dépression puis que je vais tout le temps voir le Seigneur avec ça? Ou je suis capable de faire comme Paul dit? Paul, il dit que c'est une bénédiction. Paul, il dit, j'aimerais que vous soyez tous comme moi, afin que vous puissiez avoir pleinement le Seigneur à cœur. Puis si vous tournez dans 1 Corinthiens, vous tournez un petit peu la page, et puis vous allez au verset, la fin là, je l'avais mis en rouge, mais je l'ai effacé là. Au verset 35, il dit, je dis cela dans votre intérêt, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est pour nous apprendre ce qui est bienséant, puis qu'on soit capable de s'attacher au Seigneur sans aucune distraction. Ce qui veut dire que je vais m'approcher du Seigneur dans le but de gérer mes émotions, de gérer ma relation avec ma femme. Je dois avoir... Vous savez, vous avez déjà vu le triangle? Le mari, la femme, le Seigneur. Plus on est proche du Seigneur, les deux, plus on est proche. C'est un beau cliché, mais ça marche. C'est une réalité. Mais le but qu'on sache, c'est de nous attacher au Seigneur sans distraction. Comprendre ce qui est important. Comprendre le point principal que, savez-vous, une réalité qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'est pas marié pour être bien, puis content, puis dans what toute notre vie. Le mariage chrétien sert à glorifier Dieu. Et puis, une réalité qu'on doit comprendre, c'est que peut-être, là, votre mariage est appelé à glorifier Dieu en réglant vos chicanes avec votre conjoint-conjointe. Peut-être que votre célibat, c'est une occasion de glorifier Dieu en restant pur, en restant saint, puis en luttant pour pas tomber et en acceptant les réalités. Donc, voyez-vous comment est-ce que ces points-là sont importants. Et puis, le dernier point qu'on va s'examiner au niveau de la piété, il y en a d'autres, c'est comment est-ce que je vis mes luttes avec le péché? Comment est-ce que je vis mes luttes avec le péché? Si on tourne dans Romains, chapitre 6, au verset 19, ça dit, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » Vous pouvez continuer, hein? « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Comment est-ce que je vis ma lutte? Est-ce que je suis esclave de quelque chose dans ma vie? Si je suis esclave de quelque chose, je ne suis pas esclave de Jésus. Et puis, il y a un théologien qui l'a exprimé comme si on est tous esclave de quelque chose. Soit le péché, soit Jésus. Et le péché peut avoir plein de masques, plein de façons de se présenter. Ça peut être c'est très québécois, le « je me moi », le nombrilisme chrétien. Ça peut être les autres. Ça peut être répondre aux besoins des autres. Je trouve toute mon importance là-dedans. Il peut y avoir plein de choses, mais comment est-ce que je vis mes luttes avec le péché? Est-ce que je suis esclave de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui drive ma vie qui n'est pas le Seigneur? Donc, c'est le premier point, on s'examine. Le deuxième point qu'on doit s'examiner, c'est l'amour. Est-ce que je suis capable, dans l'année 2023, de réaliser que j'ai grandi dans mon amour pour les autres, dans mon amour de la parole de Dieu, dans mon discernement pratique? Si je me regarde l'année passée puis cette année, est-ce que j'ai grandi dans ma façon de gérer mes émotions? Un autre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, celui-là, c'est spécial, il dit, 1 Pierre 1, 22, il nous dit la chose suivante, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il me parle, il dit, « Est-ce que j'aime les autres? » Puis là, il me dit, Pierre nous dit non seulement qu'il faut aimer les autres, mais il faut aimer les autres ardemment. Ça veut dire que je vais faire des efforts pour aimer les autres. Ça veut dire que la personne qui me tape ses nerfs, je ne chercherai peut-être pas à être tout le temps avec elle, mais je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a sauvé. Parce que la parole de Dieu, elle est permanente, elle est vivante et elle est juste. Elle est incorruptible. Et puis, si vous allez lire dans 1 Jean, qu'est-ce que 1 Jean nous enseigne? Il nous enseigne que celui qui dit aimer Dieu, mais qui est son frère, est un menteur. Et la parole de Dieu n'habite point en lui. Donc, comment est-ce que je réponds à ce point-là? Comment est-ce que je fais la balance? Je dois aimer ardemment même ceux qui ne sont pas aimables. Puis il y en a. Je ne vais pointer personne, mais il y en a peut-être ici. Je dois les aimer pareil. Pourquoi? Parce que si la parole de Dieu est vraiment en moi, je vais passer par-dessus. Je vais aimer quand même. Un autre point, est-ce que je demeure dans l'amour de Christ? Ça va un peu dans la même pensée, mais vous savez, au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, il y a une voix qui est sortie du ciel. Qu'est-ce que c'est écrit, cette voix-là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis un quart et 5/8 de mon affection. Hein? J'aime ça dire ça. Un quart, 5/8, 3 pouces, 5/8. Non, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, on est fort sur l'amour. Hein? Aujourd'hui, la notion d'amour, elle est complètement mélangée. Les gens mélangent la passion avec l'amour. Les gens mélangent en anglais, c'est le commitment. C'est quoi en français? Aidez-moi. L'engagement, merci. L'engagement avec l'amour. Les gens confondent plein de choses. L'amour, selon Jésus, c'est quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que vous puis moi, pendant qu'on était encore haïssables, Dieu a mis tout son amour déversé en Christ et Christ nous a aimés et nous a sauvés. Et donc, le chrétien est appelé constamment à demeurer dans l'amour du Seigneur. Comment est-ce qu'on demeure dans l'amour du Seigneur? Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Voici, je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pour vrai, moi, je sais pas, mais je suis rendu à la moitié de l'examen, là, puis je suis poche. Hein, c'est pas pour les peureux, comme on dit. Savez-vous, parce que vous savez, on est tous appelés à vivre ça tous les jours de notre vie. Hein, on est appelés à demeurer dans l'amour du Seigneur. On est appelés à aimer les autres ardemment. On est appelés à grandir dans notre amour. Ça veut dire être capable de discerner les choses que j'aime pas, les choses qui me tapent ses nerfs, puis d'être capable de discerner, de dire ça, pour toi, oui, mais pour le Seigneur, ça change pas grand-chose. Hein? Aime-les pareil. On est capable de discerner dans la parole. Peut-être que dans la Bible, il y a des versets qui vous dérangent. On est capable de prendre ces versets-là puis de dire, « Ah, il me dérange, mais Seigneur, aide-moi à l'appliquer, aide-moi à l'apprendre, aide-moi à le comprendre. Aide-moi à voir pourquoi tu l'as mis dans la parole. Aide-moi à vraiment l'adapter à ma vie. » Puis pas l'amoindrir pour qu'il soit plus facile. Non, non, aide-moi, là. Des fois, il faut que ça fesse. Bon, je sais, je suis un peu raide, mais... Ça veut dire. L'autre point, cela des fois, la marche chrétienne, des fois, c'est plus facile des fois à faire. Comment est-ce que j'utilise ma liberté chrétienne? Si vous allez dans Galates, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne faites pas de votre liberté une pierre d'achoppement pour les autres. Mais on vit dans un monde aujourd'hui qui utilise la phrase « j'ai le droit » à tort et à travers. Hein? J'ai le droit. C'est pas grave, j'ai le droit. Si ça te dérange, va-t'en. Hein? Puis si ça te dérange, poursuis-moi, cancelle-moi, peu importe. Mais ça fait utiliser notre liberté chrétienne, ça vient avec un point aussi qui est important. C'est que notre liberté, elle vient de où? C'est quoi la liberté chrétienne? C'est l'attachement à Jésus. Notre liberté chrétienne, c'est le fait d'être délivré de la puissance du péché. Ce qui fait que pour vous, vous n'êtes plus esclave du péché, vous n'êtes plus pogné dans le péché en bon québécois, vous êtes libre. Vous n'êtes plus obligé d'aller vers le péché. Ce n'est plus dans votre nature, vous êtes transformé, régénéré, vous êtes maintenant gardé par le Seigneur. Vous êtes libre de ça, afin d'être en Christ, afin d'être pleinement capable de goûter la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que j'utilise ma liberté? Le deuxième point, suis-je attaché au bien? Suis-je attaché au bien? Ça veut dire, est-ce que c'est important pour moi, ce qui est important pour le Seigneur? Hein? Vous allez lire dans Romains, au chapitre 12, les versets 9 à 21, il nous dit que la charité, votre amour, soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance. Ayez du zèle et non de la paresse. C'était pour vous réveiller. Et non de la paresse. Soyez patients. Réjouissez-vous en espérance. Servez le Seigneur. Pourvoyez aux besoins des saints. Le petit mot que je voulais faire sortir, attachez-vous fortement au bien. Après ça, il nous explique un peu comment. Ça veut dire prendre cet amour-là que Dieu a et la mettre en action. M'attacher à ce qui est bien, à ce qu'on doit faire. 1 Pierre chapitre 1. Est-ce que j'ai bien supporté l'épreuve de ma foi? Quand ma foi, elle est challengée, quand l'épreuve arrive, quand le doute vient m'attaquer, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis face à des choses qui sont injustes, Comment est-ce que je vis quand les gens autour de moi, peut-être quand ma femme dit quelque chose qui me dérange, quand un de mes amis fait quelque chose, quand mes parents font quelque chose qui vient me déranger. Hein? Il nous dit dans, au verset 7 de 1 Pierre, chapitre 1, il nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il pousse plus loin et dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Comment est-ce que j'ai supporté l'épreuve? Est-ce que ma foi a pris le bord parce que j'étais offusqué, parce que c'était difficile, parce que ça faisait mal? Ou est-ce que, comme on dit en anglais, je l'ai pris dans le menton, « take it to the chin », j'ai accepté la réprimande du Seigneur, j'ai avancé. Un autre point, comment est-ce que j'ai racheté mon temps? À deux endroits, Paul nous dit « racheter le temps ». En fait, valoir votre temps. Joël nous a parlé de son 25 550, nombre de minutes dans 70 ans, ou le nombre d'heures, je ne sais plus trop. Comment est-ce que j'ai racheté mon temps? Et puis si, vous savez, j'ai un... Il y en a-tu qui ont déjà utilisé Steam ici? Ça, c'est pour les plus jeunes, là. Désolé. Mais... Steam, dans le fond, c'est un endroit où tu peux te procurer à peu près tous les jeux sur la planète d'ordinateur. Et puis Steam a un petit point intéressant, c'est qu'il calcule le nombre d'heures que tu as passées sur chaque jeu. Puis tu ne peux pas te cacher, ça part automatique. Et puis à la fin de l'année, je ne sais pas s'ils sont... Hein, c'est peut-être pour réveiller du monde, je ne sais pas, mais ils t'envoient un résumé du nombre d'heures que tu as passées. Si on avait ça sur nos TV, hein? Moi, j'avais ça, puis j'ai fait « Ouais, OK, good job. » On va travailler là-dessus. Ça peut être d'autres choses. Hein? S'il y avait un timer sur toute chose, peut-être qu'on serait gêné. Ou pas. Le dernier point, il vient un peu avec les autres. Est-ce que j'ai marché dans la lumière? Et puis, dans le principe de ce point-là, c'est que dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 10, il dit « Marchez dans la lumière en Christ. » Et si vous dites que vous n'avez pas de péché et que vous dites « Marchez dans la lumière », vous êtes menteur et la parole de Dieu n'habite point en vous. Donc, on doit être toujours conscient qu'on doit pardonner nos péchés. Donc ça, c'est le principe de s'examiner ensemble. Okay? Là, si on fait une mise à niveau, j'aimerais vous amener dans le psaume 51. Ça a déjà été amené... C'est un psaume qui est quand même très connu. C'est le psaume que David a écrit après que Nathan, le prophète, soit venu le voir pour le confronter de son péché avec Bathsheba. Et vous savez, ça nous dit dans les passages parallèles que David était dans une mauvaise passe. Hein, c'était colérique. Ça dit qu'il était vraiment pas bien disposé, mais que à la seconde où Nathan est venu le challenger et lui annoncer son péché, face contre terre, il s'est repenti. Il a cherché et demandé la sentence juste de Dieu. Hein, il n'est pas allé vers le Seigneur et dire « OK, Seigneur, j'ai péché, là, je le reconnais, t'as pas trop fort. » OK? Il est vraiment allé, puis prenez le temps de lire ce chapitre-là. Ça va vous donner un peu un principe de mise à niveau. Si vous avez, dans n'importe quel des petits points que j'ai donnés, si vous avez une lutte, si vous avez quelque chose de difficile, il y a cette espèce de pattern-là, de schéma-là que vous pouvez prendre, qui est, on doit se repentir. Okay? C'est la base de toute victoire chrétienne, de rien garder pour soi, de rien essayer de faire par soi-même tout seul. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire, là. Hein? Personne ne peut se lever et lire votre Bible à votre place. Le Seigneur ne peut pas le faire. Mais il peut vous aider. Donc, se repentir, aller vers le Seigneur, et regardez comment comment Dieu l'a écrit à travers son prophète David, qui écrivait le psaume, le roi David. Il dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché » au verset 4. Verset 5, « Je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Ça veut dire que je vais aller vers le Seigneur, je vais me repentir de ce que j'ai gardé, je vais demander à Dieu de me purifier. Regardez comment il dit au verset 9, il dit « Purifie-moi avec l'hyssope, je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. » Verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Vous savez que, verset 13, vous pouvez appliquer tout le chapitre 51, mais le verset 13 ne s'applique plus. Dieu vous donne l'Esprit à travers Jésus à profusion. Il ne le retient pas, il le donne. Donc, vous êtes toujours capable d'aller vers le Seigneur, habiter du Saint-Esprit pour avoir vos péchés pardonnés. Et vos péchés sont pardonnés d'une façon telle que devant Dieu, ils n'existent plus. Ils sont effacés, il n'y en a plus. Et le point qui est intéressant, c'est que, regardez au verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce et tes bienfaits sur Sion. » Donc, on peut prendre le temps vraiment de regarder à quel point il y a toute cette étape-là, hein, d'aller au Seigneur, de le laisser nous pardonner, d'accepter aussi, c'est le point que je voulais faire ressortir, vouloir la sentence de Dieu, accepter que Dieu nous reprenne, accepter que peut-être ça va faire mal. Quelqu'un se souvient, c'était quoi les choix de David de la réprimande du Seigneur? J'aurais pas aimé ça être dans ces culottes. T'as le choix, David. Soit il y a 20 000 personnes qui meurent par des tornades, soit tu te fais attaquer puis tu perds 20 000 personnes, ou soit il y a 20 000 personnes qui meurent par la maladie. Ça vous tenterait-tu que ce soit ça les conséquences de vos péchés? Dans 1 Samuel, c'est ça, dans 1 ou 2 Samuel, c'est ce que David a eu à choisir. Et en plus, son enfant est mort. Et en tout ça, David, il dit, « Seigneur, ta sentence était juste. » Ta sentence était juste. Il l'a accepté. Et dans notre vie chrétienne, là, c'est comme ça qu'on va grandir. On va accepter la réprimande de Dieu dans nos vies. Et Dieu va nous transformer. Et à travers cette repentance-là, cette acceptation-là de la justice de Dieu dans ma vie personnelle, ensuite, je vais être capable d'annoncer aux gens autour de moi, le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Oui, j'ai fait ça. Oui, mon péché était là, mais Dieu l'a enlevé, il l'a pardonné, puis ça venait avec un prix. Le Seigneur est mort à la croix. Puis moi, je n'aurais pas cette petite réprimande-là du Seigneur qui va m'amener, hein? Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il les ramène, il les réprimande. Si on n'est jamais châtié de notre vie, on devient un enfant roi. Puis un enfant roi, ça ne donne pas grand-chose. C'est vrai, ça donne bien du trouble. Mais la parole de Dieu ne veut pas faire de nous des enfants rois. Elle veut faire de nous des enfants qui ressemblent au Seigneur Jésus, qui, lui, étant roi, a accepté l'humilité. Aujourd'hui, on ne comprend plus ce mot-là. En général, les croyants, on utilise le mot humilité, puis on se fait regarder bizarre. Pour faire une mise à niveau, il faut veiller et prier, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Et savez-vous dans quel moment il dit ça? On est dans le jardin de Gethsémané. une couple d'heures avant d'être crucifié. Et il demande aux disciples de prier avec lui. Puis qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils essayent, ils font de leur mieux, là. Mais ils s'endorment. Ils ne sont pas capables. Ça peut arriver un moment où on n'est pas capable, mais le Seigneur nous enseigne, veillez et priez. Le Seigneur Jésus était en angoisse dans le jardin, il priait. Les passages parallèles nous disent qu'il a même sué des grumeaux de sang. Il était en angoisse, en agonie face à ce qui allait arriver. Pas la croix, là. Okay. C'est pas la croix qui fait peur au Seigneur Jésus. Si on a plein des disciples qui regardaient une mort à la croix ou au bûcher en chantant avec allégresse, combien plus le Seigneur Jésus était capable de voir ça, voir la croix puis de faire comme « Yes, ça va bien aller ». Pourquoi le Seigneur était en angoisse? C'est parce que la Bible nous enseigne que le Seigneur allait boire la coupe de la colère de Dieu. Ça nous dit qu'il va la boire, qu'il l'a bu jusqu'à la lie. Ça veut dire qu'il n'a rien laissé. Vous savez, c'est quoi la lie? C'est quand vous faites un vin, un vrai vin, là, et puis il reste des dépôts dans le fond. Puis ça, là, c'est pas mangeable. C'est pas bon. Mais ça nous dit que le Seigneur Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Ça nous dit que même la mort de tous les êtres humains et de périr en enfer, de souffrir en enfer pour l'éternité, ça ne payait pas le prix de cette coupe-là. C'était pas assez pour atténuer la colère de Dieu. Ça l'était pas. Ça marchait pas. Il fallait payer le prix et Jésus l'a payé. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur Jésus, lui, a tout fait. On a besoin de Seigneur Jésus. Sachez, Romains chapitre 1, verset 8, un verset qu'on aime beaucoup, sachez qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune. Il n'en reste plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur a bu la coupe. Que dans le moment de prendre la coupe, même le Seigneur Jésus a veillé et il a prié afin de résister jusqu'au sang face à l'angoisse de cette colère. Et le dernier point, pour faire une mise à niveau, veillez à enlever toute racine d'amertume qui vont causer du trouble et bloquer votre communion. Enlevez ça. Tout ce qui peut, tout ce qui, comme je disais tantôt, tout ce qui a été dans votre chaudron puis qui a bouilli en masse, là, puis qui est là, quand on amène le sujet, là, vous explosez, votre chaudron déborde. Enlevez ça. Assurez-vous qu'il ne reste rien entre vous puis le Seigneur, entre vous puis les autres. Souvenez, pour avancer, vous savez, ne luttez pas seul. Si vous allez lire dans Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus juste avant qu'il soit livré. C'est la prière sacerdotale qu'on appelle, et dans cette prière, il fait ressortir un point. Que c'est par l'unité des croyants que les nations autour sauront que vous êtes à moi. Le Seigneur Jésus nous dit que c'est par l'unité. Sachez, du plus profond de mon cœur, au plus profond de votre cœur, au plus profond d'entre vous, dans vos remparts où vous êtes le plus protégé, là, sachez, un, que le Seigneur y a accès, que vous devriez lui laisser un accès volontaire. Okay? Mais sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Que le Seigneur vous a donné des frères et des sœurs dans le Seigneur. Il vous a donné des amis. Il vous a donné peut-être, il vous a donné même ce qu'on appelle une famille spirituelle. Et sachez que si votre famille est dysfonctionnelle, le Seigneur est un Père parfait, sans tâche, sans reproche. Il va s'occuper de vous à la perfection. Et savez-vous ce que ça fait un bon Père? Il s'occupe de ses enfants, puis il s'assure de faire ce qui est juste. Ce qui veut dire que moi, ça arrive à peu près 200 fois par jour, où je dois dire à mes enfants, « Non, on ne fait pas ça. » Là, 200 fois, j'exagère. On appelle ça une hyperbole. Hein? Ils sont pas si pires. Mais je dois prendre le temps. Si je dis jamais rien, qu'est-ce qui arrive? La maison pogne en feu. Mais le Seigneur Jésus prend le temps et nous appelle. Vous n'êtes pas seul. Il est un Père parfait. Mais en plus, vous avez les uns les autres. Hein? C'est par votre unité, votre capacité à être ensemble, à louer le Seigneur ensemble, à pleurer ensemble. Hein? Quand l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Soyez conscients de ce qui se passe autour. C'est par l'unité, c'est par passer du temps ensemble. Hein? Prendre du temps, que ce soit prendre un café, aller manger, que ce soit chanter ensemble, que ce soit prendre le temps de prendre des nouvelles. Et puis là, ça a aussi le principe, vous n'êtes pas seul, fait que si ça ne va pas bien, on le dit toutes la même chose. Là. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. Ça ne veut pas dire que ça va. Puis si ça ne va pas, ça ne veut pas dire de faire un show, là. Mais ça peut se dire, ah, c'est pas facile cette semaine. Ah, là, la réponse, hein? Je vais prier pour toi. Si vous le dites, faites-le. Si vous le dites puis vous le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Un Jean 1, 5 à 10? Hein? Celui qui dit marcher dans la lumière et qui ne le fait pas est un menteur. Et il n'est pas enfant de Dieu. Voyez-vous comment tout est lié? Oups. Voyez-vous comment ça peut... Et puis là, quand je prends le temps de m'examiner, je suis comme, je l'ai dit ça, puis des fois je l'oublie. Hein? J'essaie d'être uni, puis moi, je suis quelqu'un qui va s'arranger avec ses problèmes. Je veux pas que vous le sachiez, moi, m'arranger avec mes affaires. Puis ma femme, elle dit tout le temps, si tu demandais de l'aide, ça irait plus vite. Elle a raison. Mais je suis de même. Fait que ça, c'est un point, je le vis, là, c'est pour moi. Et puis, regardez, je me suis ramassé dans l'Apocalypse au chapitre 3, vers chapitre 2, quand il parle aux églises. Et puis, chapitre 3, versets 19 à 22, il y a un verset que tout le monde connaît. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voici, j'entrerai et je souperai avec lui. » On l'utilise souvent pour le salut. Puis, c'est pas mal en tant que tel, mais là où le Seigneur est en train de parler, c'est à une église, donc des gens qui sont sauvés. Et c'est une église qui a laissé le Seigneur Jésus dehors. Hein? C'est une église qui est entrée avec le Seigneur Jésus et puis qu'après ça, en vivant leur vie d'église, ont laissé le Seigneur Jésus dehors. Ça peut être les programmes, ça peut être plein de choses. Tu sais, les programmes, la famille, les objectifs de carrière, les ci, les ça. Tu sais, si vous faites un recap de votre vie du monde, vous avez peut-être des objectifs de travail, des objectifs de sport, des objectifs de santé. Je veux dire, ce soir, vers minuit, 1h, là, puis demain, toute la journée, ça va être quoi qui va se passer? Les résolutions. Hein? J'aimerais vous encourager à vous dire une chose. La Bible ne marche pas avec des résolutions. La Bible nous encourage tous les jours de notre vie à s'examiner, confesser et avancer. Hein? C'est qui va faire le plus d'argent dans la prochaine semaine? Les gyms. Hein? Weight Watcher, les points. C'est ça qui va popper partout. C'est pas mal, là. Mais appliquez pas ça à votre vie chrétienne. Hein? Le principe. Je l'ai dit, j'ai lu un petit peu le début de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. La première église, le Seigneur leur écrit, « Voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonner ton premier amour. » Faites-vous le lien avec, si on s'examine, comment est-ce que j'ai grandi dans l'amour? Comment est-ce que j'aime les autres? Comment est-ce que je demeure dans l'amour de Christ? Comment est-ce que je m'approche de Dieu? De quoi est-ce que j'ai fait mon affection? Si on regarde la réalité, est-ce que j'ai abandonné mon premier amour? Si c'est le cas, repentez-vous. Psaume 51. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi d'une eau pure. Sachez aussi, Ézéchiel 18, 19 à 32, il n'y a pas de péché trop grand, juste des cœurs trop durs. Dans le chapitre Ézéchiel, au chapitre 18, le Seigneur pose la question suivante. Est-ce ma volonté que le méchant meure? Et il répond, il dit non. Ce n'est pas ma volonté que le méchant meure, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Le but du Seigneur, c'est que tous et chacun, on puisse se grandir, qu'on puisse se repentir de nos péchés, qu'on puisse s'approcher de lui pleinement, à tous les jours, qu'on ne laisse rien faire obstacle. Philippiens chapitre 3, verset 13-14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. J'ai enlevé le début, hein, oubliant tout ce qui est en arrière. Mais Paul nous encourage à courir vers le but. Une fois qu'on s'est examiné, et puis c'est quelque chose, moi je vous encourage à faire ça pour votre année. Si vous avez un problème de mémoire comme moi, faites-le pour le dernier mois, deux mois. Une fois de temps en temps, arrêtez-vous. Ça peut être une fois par semaine. Regardez, j'en suis où dans ma piété? Hein? Où est mon affection? Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je crois vraiment que le Seigneur Jésus a pardonné mes péchés? Est-ce que je m'affectionne des choses du monde ou vraiment je me suis ancré dans la parole? Hein? Et l'Ancien Testament nous propose souvent l'image d'un arbre, hein? Enraciné profondément. Vous pouvez être enraciné dans le monde avec des principes du monde et bien vivre. Hein? Le Seigneur a donné la sagesse de bien vivre, pas juste aux chrétiens. Mais la parole de Dieu nous enseigne, enracine-toi pas dans le monde, enracine-toi dans le Seigneur, enracine-toi dans la parole. Celui qui s'enracine dans le Seigneur est semblable à un arbre près des courants d'eau. Il ne flétrit pas, son feuillage est toujours vert, même en temps de sécheresse, parce qu'il s'est planté à la bonne place. Est-ce que tu crois avec ta tête ou est-ce que tu crois avec ta vie? Prenons le temps, examinons-nous, je vous encourage à le faire. Moi, je l'ai fait. C'est pas facile. Hein? Assurez-vous d'avoir bien du chocolat pour monter votre dopamine. Puis prenez le temps, on s'examine, on regarde, puis on avance. On va au Seigneur et on s'approche sans aucune peur. Parce que Romains 1:8, il n'y a donc aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus. Si vous faites le pas, il n'y a aucune condamnation. Si vous avez besoin, si vous n'êtes pas certain d'être chrétien, sachez que l'Évangile, c'est simple. C'est probablement la chose la plus difficile que vous allez faire dans votre vie, mais ce n'est pas compliqué. Hein? On est tous pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que Romains nous enseigne. La Bible nous dit, tout le monde, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est présenté comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous pouvez avoir confiance que le Seigneur Jésus s'est donné lui-même afin d'enlever votre péché. Et en ayant la foi, c'est par la foi qu'on a accès au salut. Mettant notre confiance en croyant que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés, qu'il l'a fait et que ça a un impact dans vos vies, que vous voulez être pardonné de vos péchés, le Seigneur Jésus vous dit que vous êtes pardonné. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et donc, vous allez voir des changements. Mais sachez que celui qui confesse le Seigneur de sa bouche sera sauvé. Demandez-lui, appelez-lui, implorez sa grâce. Repentez-vous, demandez le pardon et sachez que Dieu vous le donne. Gratuitement, sans aucune promesse, sans aucun petit caractère. Mais sachez que ça, il a donné sa vie et il vous appelle à donner la vôtre pour lui. Pardonne vos péchés, sachez que si vous lui demandez ce matin, vous êtes pardonné. Et vous pouvez ensuite progresser dans votre vie chrétienne. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez souffrir plein de choses. Mais comme disait Pierre, mieux vaut souffrir pour une bonne action que pour une mauvaise. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, allez à lui. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, examinez-vous. Si on ne s'examine pas, on ne peut pas grandir. Si on veut grandir, on s'examine. Si on s'examine, ça fait mal, mais on avance, on grandit. Puis si ça fait pas mal, gloire à Dieu. Si ça fait mal, gloire à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier ce matin parce que tu es avec nous, Seigneur, et puis tu nous enseignes à nous examiner, Seigneur. Il y a plein de choses dans notre vie qu'on peut regarder, qu'on peut chercher à être agréable à tes yeux. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses être avec chacun de tes enfants, afin qu'on puisse s'examiner, chercher ta volonté dans nos vies, chercher ta face, voir où on a des angles morts, se repentir, accepter aussi ta réprimande, et puis avancer, grandir dans notre foi. aide-nous à grandir. Et Seigneur Dieu, je te prie, si quelqu'un ici ce matin ne te connaît pas comme son Sauveur et son Seigneur personnel, qui n'a pas fait de toi son Sauveur, eh bien, parle à leur cœur. Seigneur Dieu, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de formule magique. Seigneur Dieu, il y a juste un Dieu qui s'est donné pour nous. Il n'y a rien d'autre. Et on veut tous mettre nos yeux dans le même panier, on veut te faire confiance. Et on veut te demander de nous diriger, on veut te demander de nous ouvrir les yeux, on veut te demander de nous aider à grandir. Et que cette année, Seigneur, qui s'en vient, qui commence, puisse être une année de réveil. Que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans notre ville, Seigneur Dieu, que tous et chacun puisse être conscient de nos besoins, qu'on puisse te donner notre vie, qu'on puisse vraiment lutter avec toute notre âme et que tu puisses vraiment bénir. Bénis ton Église, Seigneur Dieu. Et merci pour ta grâce dans nos vies. Merci d'avoir fait toutes les choses qu'on avait besoin. Et maintenant, Seigneur Dieu, de te révéler à nous. Pour ta gloire, amen. Pour ça, je vous souhaite une très, très belle année. Que Dieu vous garde.